Le midi.
13h01. Je rappelle que Sam Ahmad va venir faire son tour dans les studios de Boulevard 101 vers 16h avec toute l'équipe de Gravel dans le retour. Denis, Véro et Audrey qui seront là avec Sam Ahmad. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h avec Maître Marc Bellemare pour vous jaser de dossiers qui touchent l'actualité. Parlant d'actualité, ça brasse pas mal là, dans le système de santé depuis des années et des années. Puis j'ai l'impression que les prochaines semaines, les prochains mois seront... peut-être un peu plus difficile que celle qu'on a connue dans les dernières semaines, les derniers mois. Lundi passé, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui a décidé de mettre fin au recours aux agences privées dans 5 régions du Québec. On avait commencé Montréal, Laval, Montérégie, Capitale-Nationale, ce qui nous touche, Chaudière-Appalaches, ce qui nous touche. Et là, ce sera autour cette semaine de Lanaudière, de la Mauricie, du centre du Québec, des Laurentides, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de devoir mettre fin à leur contrat avec les employés en provenance du privé à la fin octobre de l'année 2025. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? On a le plaisir de jaser avec le Patrice Lapointe, qui est le président du regroupement des entreprises privées de personnel soignant du Québec. Bonjour, M. Lapointe.
Bonjour, M. Marceau.
Merci d'être avec nous. Comment ça se passe concrètement sur le terrain là, avec la décision de la CAQ de mettre fin au recours aux agences privées dans les 5 régions du Québec?
Bien, vous savez, si on regarde au niveau de nos entreprises, je vais me citer un exemple. Le Service Progressif, c'est une entreprise familiale qui est dans ma famille depuis 50 ans. Donc, on fait autre chose, on est présent en soins à domicile, on est capable d'offrir des soins dans d'autres secteurs d'affaires. Fait que pour nous, c'est vraiment un drame au niveau de la population, les patients qui ont besoin de soins, puis des employés du réseau qui restent derrière et qui vont souffrir de ces décisions-là politiques, malheureusement.
Okay. Mais est-ce que vous avez eu un retour sur la semaine dernière concernant, je sais pas, moi, les gens qui sont directement dans les hôpitaux? Est-ce qu'on a remarqué votre absence dans les hôpitaux?
Oui, bien en fait, c'est une situation qui perdure depuis longtemps parce qu'on s'entend que c'était la date officielle, mais ils sont en mode compression depuis plusieurs mois. Donc vraiment, on le voit, là, que ce soit la FIC là, qui soudainement dénonce que notre absence et qui maintenant, là, qui sont confrontés à la situation, au fait que ça va faire exploser le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire pour ses membres et que ça va créer un trou béant. Maintenant, ils disent, ben écoutez, ces employés-là étaient principalement sur des corps défavorables. C'est nos employés qui vont supporter leur absence, puis ça va créer plus de problèmes, puis plus de départs en maladie. On le voit, d'un autre côté aussi, ce qu'on voit depuis un an, là, que ça dure là, essentiellement, là, cette fin des agences-là, on l'a vu aussi, on est en train de normaliser les bris de service, puis les découvertures aux quatre coins du Québec, et c'est pas juste en région éloignée, là, c'est pour qu'on parle de la Côte-Nord, à l'Abitibi, là, qui ont vécu des situations très, très difficiles dans la dernière année.
Quand vous parlez de bris de service, on a eu la fermeture de l'unité des naissances à l'hôpital Notre-Dame, entre autres à Montréal, là, qui est survenu parce qu'il n'y avait pas assez de personnel soignant à l'intérieur?
Ah, effectivement, écoutez, c'est une unité des naissances dans laquelle on a collectivement investi 25 millions de dollars qui devait ouvrir en 2020. Ça a été reporté. Finalement, ça n'a pas opéré 6 mois, puis on ferme, faute de personnel. Mais nous, c'est à ça qu'on sert, c'est toujours à ça qu'on a servi. C'est prendre des gens qui ne peuvent pas travailler pour le réseau pour toutes sortes de bonnes raisons, puis de les retourner dans le réseau public pour le renforcer. Et puis faire en sorte que les gens reçoivent des soins, puis que les soignants du réseau public ben, aient une relève stratégique quand ils ont besoin de prendre des vacances ou de se reposer. Donc, on pense à il y a l'unité d'obstétrique à Sept-Îles aussi, qui avait fermé le 24 mars dernier jusqu'à nouvel ordre, faute de personnel. Et ces situations-là, c'est ce qu'on observe, elles se normalisent dans le réseau en ce moment.
Mais
c'est déplorable parce que...
Allez-y.
Oui, je m'excuse. Ce que je voulais juste terminer en disant, c'est dommage parce que nous, ça fait plus de 2 ans qu'on prend la parole et qu'on lève la main et on dit, écoutez, on est prêt à aider. On comprend la nécessité d'un encadrement pour éviter les débordements, mais on a proposé toute une liste de solutions. C'est juste qu'il faut que la prémisse de base soit que le gouvernement reconnaisse on a besoin des agences de placement. Ils ont une agilité, une flexibilité que notre réseau n'a pas, dont il a besoin. Maintenant, travaillons ensemble. Et ça a toujours été ça, notre prémisse pour nous.
Ça fait combien d'années que vous êtes dans le domaine, M. Lapointe?
Moi, personnellement, depuis 2001, donc j'ai passé l'essentiel de ma carrière active dans le domaine du placement et des soins à domicile. Mon entreprise, ça a été fondée par ma mère infirmière en 1974. Donc, ça fait 50 ans cette année. Hein. Ça va faire 50 ans qu'on est en affaire.
Ça, c'est fascinant parce que vous avez vu des différences au sein de tout ce qui est la santé puis la grosse machine. Puis quand vous dites c'est rendu pas normal, mais acceptable de faire une rupture de service au lieu de travailler à la solutionner puis à se dire c'est impossible une rupture de service en santé, vu tout l'engrenage qui s'ensuit, comment est-ce qu'on en est arrivé à faire avec?
Bien, essentiellement, c'est sûr, il y a une partie de la réponse là, qui appartient au gouvernement puis aux politiciens qui sont en place, mais nous, ce qu'on observe, c'est que d'une réforme à l'autre, on centralise de plus en plus les services, puis ça les déshumanise. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une ronde de centralisation, la solution est de plus en plus loin du problème. Et ce qui est une évidence pour les gestionnaires de terrain, vous savez, pendant des années, ça a été, on disait les agences de placement sont des collaborateurs essentiels au réseau de la santé. Il y avait un équilibre. On a même des études économiques qui démontrent que sur une longue durée, nos entreprises représentaient des économies importantes pour le réseau de la santé, parce que ça coûtait moins cher. Ça coûtait moins cher pour deux raisons. C'est que souvent, on va remplacer quelqu'un qui est en temps supplémentaire ou en TSO. Mais au-delà de ça, on est aussi, on entendait Santé Québec qui voulait couper des postes et qui disait, on va couper des super structures qui avaient été mises en place durant la pandémie. Imaginez, on est deux ans, trois ans plus tard, puis ils ne sont pas encore démontés. Mais si on bâtit une structure temporaire pour supporter un pic d'utilisation dans le réseau de la santé, puis que c'est une agence qui est là, on est là pour trois mois ou trois semaines, puis on disparaît ensuite de ça quand le besoin n'est plus là. C'est là-dedans qu'on se spécialise. On optimise les ressources.
Ouais, mais qu'est-ce qui fait que la FIC a dégelé à un moment donné? Parce qu'au départ, il était d'accord avec la Coalition Avenir Québec pour mettre fin aux appels qu'on faisait aux agences privées. Puis là, tout d'un coup, ils se sont aperçus que les filles et les gars qui travaillaient pour les agences privées, ça leur tente pas plus de travailler pour le public. Fait que là, ils ont dégelé, puis ils ont dit « Ouais, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça de plus faire appel aux agences privées. C'est quoi les arguments que la FIC a pour faire un volte-face de cette façon-là?
C'est le choc de la réalité, ni plus ni moins. Ils sont confrontés à ce qu'on dit depuis deux ans.
Mais ils étaient au courant de ça, comme quoi le service de santé donne, notre service de santé à nous au Québec, donne de mauvaises conditions de travail aux gars et aux filles qui travaillent à l'intérieur de ce système-là. Ils savaient que les agences privées donnaient des corps de travail qui avaient du bon sens puis qu'ils ne pouvaient pas obliger les employés des agences privées à faire des chiffres doubles parce que la personne, si elle voulait aller chercher ses enfants à 16 heures, à 16h10, elle était en face de la garderie puis il n'y en avait pas de problème. Qu'est-ce qui fait que la FIC n'avait pas connaissance de la réalité? Moi, je pense juste qu'il y avait un accord avec probablement le gouvernement. Si vous êtes de notre bord, on va peut-être vous en donner plus.
Effectivement, on sait que c'est la FIC qui a demandé au gouvernement initialement d'abolir les agences, mais il faut comprendre. Pour la FIC, là, quand on comprend le dossier depuis des décennies, comme nous, là, qui avons passé tout ce temps-là dans le réseau, ça a toujours été une histoire de gros sous. Hein? À l'époque,
c'était
les tribunaux.
Ouais,
le syndicat, c'est ça les tribunaux, parce qu'ils voulaient aller chercher les cotisations syndicales qu'ils perdaient avec nos employés.
Exact.
Donc, une fois qu'ils étaient confrontés à ça, qu'ils ont perdu devant les tribunaux, parce que vous savez, ça a été une bataille que notre association a menée pendant 10 ans, on s'est rendu en Cour d'appel du Québec, la Cour d'appel nous a donné raison, ils ont saisi la Cour suprême du Canada, puis la Cour suprême du Canada a dit non, on est d'accord avec la Cour d'appel du Québec, on vous entendra pas. Là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans un cul-de-sac devant les tribunaux, d'autant plus que les tribunaux, dans leur jugement, disaient non, écoutez, le réseau de la santé a le droit travailler avec des agences de placement, mais même il y a l'obligation de le faire quand c'est pour assurer sa mission première de soigner la population. Donc, c'est un jugement vraiment fort. Fait que là, ils se sont tournés vers la politique et ils ont demandé au gouvernement. Puis ça a été un pari. Ils ont fait un pari sur la santé des gens en disant, écoutez, nous, on va demander au gouvernement d'abolir les agences. Puis on va espérer que ces gens-là, parce qu'on leur tord un bras dans le dos, puis on les force à rentrer dans le système, ils vont venir. Nous, on leur a dit, les gens ne reviendront pas. Il y en a qui vont revenir de force, mais ça fait pas des très bons employés quand on est contraint de revenir. Puis il y en a beaucoup, puis on le voit, là, les réseaux sociaux, c'est plein de témoignages à cet effet-là. Des gens, moi, je me suis réorienté, moi, je suis rendu en Ontario, moi, je suis rendu au Nouveau-Brunswick, moi, je fais autre chose, je me suis ouvert une clinique de soins de pied. Les gens où sont allés au privé, où est-ce que seuls les utilisateurs payeurs peuvent recevoir des soins, finalement. Donc, c'est ça que c'est produit. Gens que c'est pas toujours une question de pas vouloir revenir dans le réseau. Ils peuvent pas. Leur réalité, fait qu'ils ne peuvent pas. Puis c'est trop rigide, le réseau. Donc, je pense, laissez-les travailler au soutien des services à la population. avec nos entreprises. Puis quand leur situation, personne ne le change. Mais les gens, ça allait des deux côtés. Les gens ne quittaient pas tous massivement pour le privé. Il y a beaucoup de gens des agences que quand ils trouvaient le bon poste, à la bonne place, ils réintégraient le réseau et étaient très heureux. Là.
Ça a fractionné au niveau public-privé. Ça a fractionné dans les tâches, les emplois, où est-ce qu'on postule, dans quel secteur on va travailler. Mais ce qui est nouveau, puis je me trompe peut-être, de ce que je vois sur le plancher, c'est une fraction aussi au sein des employés. Il y a des gens qui trouvent que maintenant, ils travaillent avec certaines personnes qui ont moins à cœur ou qui sont brûlées ou encore ils ont une écœurantite de leur métier puis qui ne prodiguent pas les mêmes soins qu'ils devraient faire en ayant peut-être l'humain qui a quitté un petit peu là, le sens du travail par toute cette complexité-là. Puis ça divise aussi entre les employés. C'est la première fois que je commence à constater ça dans les discours des travailleurs. Est-ce que vous le voyez aussi?
Bien, écoutez, ultimement, on voit que des employeurs compétents, il y en a au public, il y en a au privé, des employés des employés compétents puis dévoués, il y en a des deux côtés. Puis c'est vrai aussi des gens qui sont blasés, qui n'aiment pas leur travail, qui font le minimum. Il y en a au public, il y en a au privé. Donc, je pense que c'est important de comprendre les nuances. Puis, c'est sûr et certain qu'à partir du moment où on enlève... Nous, on s'est toujours considéré comme les pompiers du réseau de la santé. On enlève les pompiers et on se dit que les incendies vont disparaître. Mais non, ce qui se passe, c'est que les foyers d'incendies ils apparaissent de plus en plus. Et nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est écoutez, là, je pense qu'on est face à un constat. On a toujours reconnu que ça prenait un encadrement pour éviter les débordements au niveau des prix, comme on a vu dans la pandémie, malheureusement, de la part de certains mauvais joueurs de l'industrie. Ça prend aussi des règles très claires, parce que c'est pas n'importe qui devra avoir le droit de travailler avec le réseau de la santé, donc une liste de partenaires accrédités qui sont triés sur le volet. Mais quand tout ça s'est réuni, ce qu'on fait, c'est qu'on garde des gens dans le réseau qui l'auraient quitté. Donc, c'est vraiment un net positif pour la population québécoise puis les patients du réseau public. Parce que si on garde ces gens-là, puis qu'on le fait à un prix compétitif qui est essentiellement soit le même ou moins cher que le réseau public, surtout quand on considère le coût humain là, de l'épuisement professionnel, bien, à ce moment-là, on joue un rôle où est-ce qu'il y a des gens qui diraient, ben moi, je ne peux plus être dans le réseau, mais je vais y rester une fin de semaine sur deux avec une agence parce que c'est un deuxième emploi, ou je vais donner des disponibilités l'été parce que je suis professeur au cégep, ou on a une mère qui vient de se séparer puis qui est dans une situation instable avec ses enfants pour un certain temps puis qui a un horaire un peu plus atypique pendant qu'elle gère sa séparation, mais ça va se stabiliser d'ici quelques mois, quelques années, puis elle peut y retourner. Là, c'est pas ça qui se passe. Les gens quittent le réseau public et ils n'y retournent plus parce qu'en plus, ils se sont sentis pas respecté par le gouvernement. Ça veut dire, là, on ne veut pas respecter le fait qu'on veut aider le réseau public différemment. Puis ces gens-là, ben, quand ils partent, ça, c'est une perte pour toute la population, puis c'est vraiment un risque de ne pas retrouver ces soignants-là. On va en avoir le plus besoin.
Monsieur Lapointe, j'ai le plaisir de partager ma maison avec une infirmière, puis quand elle fait des soupers de sacoche, je me transforme en esclave de la maison, puis je les écoute jaser, puis très souvent, quand ils parlent d'entreprises privées qui s'occupent du placement, là, c'est constamment une amélioration de leurs conditions de vie au travail. Mm-hmm. C'est un corps qu'ils peuvent faire en sachant très bien qu'ils vont être de retour avec leurs enfants le soir, tandis qu'à l'hôpital, c'est pas toujours évident. Là. C'est souvent des hommes et des femmes, en majorité des femmes. Là, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers qui veulent avoir des conditions de vie et des conditions de travail qui soient potables.
Quand tu y penses, c'est normal.
Ben, c'est juste normal.
On s'est habitué à la normale.
Ben oui. Fait, quand ils parlent des entreprises privées qui font du placement, pour eux, c'est comme... C'est salvateur, là.
Bien, absolument. C'est toujours ce qu'on a dit. Écoutez, il ne fallait pas prendre une photo d'une crise historique, le centenaire, la pandémie, où est-ce que le réseau de la santé a complètement perdu le contrôle. Puis là, c'est pas pour leur lancer la pierre que je dis ça. Là, je pense que tout le monde est d'accord que c'était quelque chose de jamais vu pour n'importe qui est en vie aujourd'hui. Là. Mais ils ont perdu le contrôle, puis ça a créé un système où est-ce qu'il y a eu une explosion des coûts. Certaines entreprises ont obtenu des contrats de gré à gré avec le réseau qu'ils n'auraient pas dû obtenir. Là, de prendre ça comme une photo, de dire, ben voici la réalité, puis c'est pour ça qu'il faut les abolir, c'est là que c'était une erreur de gestion, puis une erreur stratégique de la part du gouvernement immense. Parce qu'ils ont regardé une crise, puis ils en ont fait une règle. Alors que c'était pas une règle. C'est non, on est dans une période de crise, il faut trouver un équilibre. Parce que si vous regardez à plus long terme, non seulement on vous permet de faire des économies dans un contexte financier difficile, mais en plus, on est essentiel au bon fonctionnement du réseau, puis on maintient dans le réseau du monde qui partirait. Puis c'est aussi vrai pour les gens qui choisissent le public. S'ils ont une relève à 4 heures quand ils veulent partir, il y a bien moins de chances qu'ils tombent en maladie ou qu'ils s'en aillent que s'ils n'ont pas de relève et qu'ils sont enfermés dans une pièce. Comme on a vu à Victoriaville il y a quelques semaines, les infirmières de soir qui sont enfermées dans une pièce, on leur dit « bon, ben trouvez entre vous une relève pour la nuit là, parce qu'on n'a personne ». Imaginez quel genre de conditions ça crée. C'est effectivement, comme vous dites, on a normalisé une situation qui n'a rien de normal.
Ouais.
Puis nos entreprises, on n'a pas toutes les solutions, mais on a beaucoup de solutions à proposer puis beaucoup d'outils dans notre coffre à outils pour permettre au réseau d'éviter ces crises-là.
Monsieur Lapointe, c'est un plaisir.
Et pareillement, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée. Bye-bye.
Patrice Lapointe, qui est président du regroupement des entreprises privées de personnel soignant du Québec. Je trouve ça intéressant, ce type d'entrevue-là. Puis souvent, ce que, tu sais, de voir le volte-face de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, donc le syndicat des infirmières, dire au début, ah, on est d'accord avec le gouvernement. Finalement, leur propre syndiqué, ils disent, c'est un peu, c'est parce que nous autres, tu nous fais travailler deux fois, puis trois fois, puis quatre fois plus. Puis on est écœurés, puis on menace de sacrer notre camp. Là, tout d'un coup, la FIC décide de changer leur fusil d'épaule en disant « Ouais, les entreprises privées, ça peut aider une fois de temps en temps. »
C'était correct, finalement. Mais tu sais, quand tu y penses, je trouve ça intéressant ce qui s'est passé dans notre conversation, Yannick, avec M. Lapointe. On est en train de normaliser quelque chose d'anormal par rapport au corps de métier parce qu'on se dit « Ouais, mais c'est ça la santé. » Mais c'est ça la santé parce qu'elle est souffrante. C'est ça la santé parce qu'elle est autant aux patientes que les patients qui se présentent à l'urgence en ce moment. Faut quand même le réaliser. Puis on a démonisé les agences de placement privées parce que ça faisait compétition avec le modèle actuel au public, mais il est défaillant. Mm-hmm. C'est complètement stupide, là. Je comprends qu'il ne faut quand même pas qu'il y ait une position de force qui se prenne du privé, mais il y a quand même une position de ficelage, une position de meilleures conditions qui va mettre un peu de poids sur le public et peut-être à changer.
Bien,
la démoniser, par contre.
Les médecins chirurgiens qui se plaignent parce qu'ils sont supposés d'avoir X nombre d'infirmières pour travailler avec eux pour une opération, puis finalement, les filles sont trop fatiguées puis ils peuvent pas réaliser l'opération.
Ils ont déjà fait
80
heures semaine, maintenant.
Ils peuvent pas être là. Fait que là, il y a un bris de service. Oui. Fait que le gars ou la fille qui attend son opération depuis des mois et des mois, bien, il se voit être obligé de retourner à la maison puis revenir dans quelques semaines lorsqu'il y aura le bon nombre d'infirmières par rapport au nombre de médecins qui sont disponibles pour faire les chirurgies. C'est juste hallucinant. Mais
ironique qu'un chirurgien, Yannick, qui dit « j'opère pas assez ». J'opère pas assez au public.
Ouais.
Tu t'attends à quelqu'un, mettons, qui veut peut-être pas autant travailler, qui veut faire ses horaires. Non, il y en a qui migrent au privé parce qu'ils opèrent pas assez.
Parce qu'ils veulent avoir le bon nombre d'infirmières disponibles. Puis là, ils arrivent, la salle est disponible, tout est propre.
Il opère, il travaille.
J'ai l'impression qu'on va reparler encore dans 5 ans. 13h18, 418-971-101. Qu'avez-vous à nous dire, les amis? Ça fonctionne par texto. On vient. Marceau.